RFI, 13h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. Le journal avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Simon et bonjour à vous qui nous écoutez. Afrique Midi, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité africaine et on commence avec le journal. À la une, les combats ont repris tôt ce dimanche dans l'est de la RDC. Des sources sécuritaires parlent d'une offensive des FARDC et des milices Wazalendo pour récupérer l'agglomération de Ngungu. Hier, la ville de Massissi Centre est tombée aux mains des rebelles du M23. On fait le point avec notre correspondant à Goma dès le début de ce journal. L'inquiétude et la colère au Gabon. Les pharmaciens ne délivrent plus les médicaments aux assurés de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale, conséquence de la lourde dette de l'organisme. Au sommaire également, on sera en Côte d'Ivoire où une réunion est prévue lundi pour examiner la situation du Zimrida, ce navire transportant du nitrate d'ammonium hautement inflammable. Soupçonné d'avarie, il a interdiction de se rendre au port d'Abidjan. Et puis du football et la quatrième journée de la Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, cet après-midi, l'ASEC Mimosa reçoit l'USM Alger à Abidjan. Un match crucial pour les jaunes et noirs. On démarre donc ce journal dans l'est de la République démocratique du Congo, où après de violents affrontements contre l'armée congolaise appuyée par les milices Wazalendo, les rebelles du M23 ont pris hier le contrôle de Massissi Centre. La chute de cette ville clé, chef-lieu du territoire, a conduit à un déplacement massif de population. À Goma, correspondance d'Héritier Baraka.
Les combats ont repris tôt ce dimanche matin. Des sources sécuritaires parlent d'une offensive des FARDC et Wazalendo pour récupérer l'agglomération de Ngungu et ses environs. Ces affrontements sont concentrés sur plusieurs collines du groupement Mouvouni Shanga, selon Jean-Dédié Baramikwa, membre de la société civile de cette région. Des violents combats sont ainsi signalés à Bitaata, Ruangara, Kamatale, Musumba, Ndumba, collines stratégiques à la limite entre les provinces du Nord et Sud Kivu. Mouharura Wetemwami François, responsable local, confirme que la situation est tendue dans ces zones où sont attendues des détonations d'armes lourdes d'une grande intensité depuis ce matin. Hier, les Wazalendo alliés aux FARDC ont revendiqué la reprise des 5 bastions du M23, Kamatale, Kasake, Kabingo, Luizi et Luangala. Le M23 qui, ce même jour, annonçait de son côté avoir pris la ville de Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La RDC, où Joseph Kabila revient dans le jeu politique. Raymond Tshibanda, coordonnateur de la cellule de crise du FCC, la plateforme politique de l'ancien président, a déclaré hier que Joseph Kabila n'avait jamais pris sa retraite politique, mais plutôt un congé sabbatique. Il est prêt à répondre à l'appel du peuple, assure-t-il. Des déclarations qui interviennent quelques semaines après celles de l'ex-première dame. En novembre, Olive Lembe Kabila assurait que son époux n'était pas en exil, mais poursuivait des études à l'étranger avec l'objectif de revenir mieux aguerri. On reste en RDC pour évoquer cette fois la hausse du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il va doubler le 1er février prochain. De 2,50 $, il doit passer à 5 $. À Kinshasa, correspondance de Pascal Moulégois.
Le ministre congolais du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa Namitou, s'est dit optimiste et affiche sa fermeté.
C'est un acte réglementaire et ça doit s'appliquer obligatoirement, surtout que nous avons consenti ensemble. Par moment, il y aura des personnes véreuses qui ne vont pas vouloir respecter, mais l'inspection générale du travail est là pour faire appliquer notamment l'arrêté que je venais de signer ici.
Les syndicalistes du secteur public se frottent les mains. Ils restent toutefois inquiets car la loi des finances de 2025 n'a pas prévu cette augmentation. L'ONG congolaise CREFDL, spécialisée dans les finances publiques, souhaite que l'État soit le premier à appliquer le nouveau SMIG au profit de ses travailleurs, agents et fonctionnaires. Valérie Madianga, porte-voix de l'ONG, reste dubitatif.
Nous avons l'impression que ce SMIG a été promulgué juste pour les secteurs privés. Mais les secteurs publics peinent à mettre en œuvre ce SMIG depuis des années antérieures. Nous pensons que le gouvernement devrait d'abord prêcher par l'exemple. Mais il faudrait que le gouvernement soit réaliste. Il faudrait maintenant envisager peut-être un collectif budgétaire pour intégrer cette nouvelle politique dans la programmation budgétaire.
Autre problème, les fonds monétaires internationaux restent toujours opposés à l'explosion de la masse salariale. L'institution partenaire privilégiée de Kinshasa pousse le gouvernement à amoindrir le poids des salaires jusqu'à 45% du budget contre près de 70% actuellement. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
En bref, en Centrafrique, on vient d'apprendre le décès de Joseph Bendounga, cette figure de l'opposition, leader du mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de la Centrafrique, avait 71 ans. Ses obsèques doivent avoir lieu aujourd'hui. La colère et le désarroi au Gabon, où les problèmes de remboursement de frais en pharmacie se multiplient. Depuis jeudi, les pharmaciens ne délivrent plus les médicaments aux assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, une caisse auprès de laquelle 90% des Gabonais sont pourtant assurés. Alors forcément, l'inquiétude est de mise dans le pays. Reportage d'Yves Laurent Gomain.
Roger a un parent dans un bloc opératoire. Il a fait le tour des pharmacies, mais aucune n'a accepté de lui délivrer les médicaments grâce à son assurance maladie.
C'est une facture de 170 000 francs que je tiens en main. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ce pays sans la CNAMGS? Qu'est-ce que nous allons devenir?
Le refus des pharmaciens de délivrer les médicaments plonge les populations à faible revenu dans le désarroi.
C'est dramatique pour nous les pauvres. Je n'ai même pas de mots.
Que le président m'entende, s'il entend ce que je dis, qu'il faut qu'il remédie à cette situation le plus vite possible, au plus tard lundi.
En cause, une dette trop lourde accumulée par la CNAMGES vis-à-vis des pharmacies. Dans un communiqué, la Caisse a annoncé que cette dette est en cours de liquidation depuis le 31 décembre. La ministre des Affaires sociales, Nadine Nathalie Awanong Anato, a voulu rassurer la population.
Le gouvernement met tout en œuvre et est engagé pour sortir de cette crise et revenir à un redressement de cette entité qui est aussi notre image.
Éclaboussée par un scandale de mauvaise gestion, toute l'équipe dirigeante de la CNAMGES a été limogée en novembre. De nouveaux responsables ont été nommés et installés ce samedi.
Yves-Laurent Goma, à l'écoute de RFI, il est midi 37 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, où un navire est sous haute surveillance. En cause, sa cargaison du nitrate d'ammonium, une substance hautement inflammable. Soupçonné d'avarie, le port autonome d'Abidjan a interdit à ce navire d'entrer dans ses eaux territoriales, et ce jusqu'à nouvel ordre, par mesure de précaution. Une réunion est prévue demain pour examiner la situation, annoncent les autorités. RFI Abidjan, Abdoulaziz Diallo.
Le navire en question, le Zimrida, bat pavillon de la Barbade. Parti d'Angleterre le 16 décembre, il est arrivé en rade extérieure d'Abidjan le 30 décembre. Actuellement, il mouille à plus de 22 km au large, hors des eaux territoriales ivoiriennes. Initialement attendu à quai ce lundi, le Zimrida reste immobilisé après une alerte signalant une possible avarie sur sa cargaison. Il transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 3 000 tonnes destinées à la Côte d'Ivoire. Ce produit couramment utilisé comme engrais est aussi tristement célèbre pour son potentiel explosif en cas de mauvais stockage ou de manipulation inappropriée. Pour donner une idée des risques, la cargaison du Zimrida représente 7 fois le volume du nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Cette affaire réveille de douloureux souvenirs en Côte d'Ivoire. Il y a près de 20 ans, le Probo Koala avait déversé plus de 500 mètres cubes de déchets toxiques, causant la mort de 17 personnes et intoxiquant des dizaines de milliers d'autres. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
En bref, au Tchad, l'indignation face aux cas de violence envers les enfants. Hier, un sit-in était organisé à N'Djamena par la Ligue tchadienne des droits des femmes, à quelques mètres du festival Dari. Rassemblement pour dénoncer le viol collectif d'une mineure de 17 ans le 1er janvier dernier. Reportage de notre correspondante à retrouver sur RFI.fr. Les violences sur les enfants qui indignent aussi à Dakar. Le Sénégal, frappé ces 10 derniers jours par le décès brutal de deux enfants, un jeune talibé battu à mort par son maître coranique, et dans la nuit du 31 décembre, une jeune fille de 12 ans étranglée par le père de sa meilleure amie. Deux affaires qui suscitent l'émoi et la colère dans le pays, à commencer par Amsatou Sow Sidibé. Elle est présidente de la Commission nationale des droits de l'homme au Sénégal et rappelle que les enfants ont des droits qui doivent être protégés.
La loi protège, mais la loi n'est souvent pas appliquée. C'est une occasion d'interpeller les parents pour qu'ils soient plus attentifs. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est à la maison ou à l'école. Aussi une occasion pour nous d'interpeller tout responsable qui pourrait mieux encadrer l'éducation religieuse. Les talibés sont maltraités dans beaucoup d'écoles religieuses qu'on appelle Dara, ce qui est inadmissible. En tout cas, ce que nous demandons à l'État, c'est le renforcement des mécanismes de protection des enfants. Et il faudrait aussi une mobilisation citoyenne. Il faut que chaque Sénégalais, chaque Sénégalaise ait le sens de l'observation, de l'alerte précoce et de la dénonciation. Ça me semble essentiel en un moment où ces cas de violence atroce se multiplient de façon inadmissible.
Propos recueillis par Amélie Tullet. L'actualité au Mali et cette prise de parole de Choguel Maïga, l'ancien Premier ministre limogé en novembre dernier, a présenté ses vœux à ses partisans. L'occasion pour lui de dénoncer ce qu'il considère comme un acharnement contre ses militants. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens finira toujours mal, a-t-il déclaré. Autre vœu que l'on a suivi hier, ceux des forces vives de la nation au Congo. En réponse, Denis Sassou Nguesso a déploré la montée des comportements déviants, allusion faite au grand banditisme ou encore au développement des gangs dans les grandes villes du pays. RFI Brazzaville, Loïcia Martial.
La grande salle du palais des congrès était pleine pour les vœux du chef de l'État congolais. Répondant aux vœux adressés par le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, le président Denis Sassou Nguesso s'est appesanti sur les questions de sécurité dans le pays. Il a fustigé des comportements déviants et rétrogrades.
Les comportements déviants de certains jeunes au sein de la cité, notamment dans les périphéries urbaines. Cette situation nous interpelle tous. En tant que parents, un système éducatif ne peut par lui-même façonner la superstructure d'un pays.
Ces derniers mois, la recrudescence des gangs dans les grandes villes, notamment dans la capitale, a contribué à la hausse de la délinquance en tout genre. Agressions, vols, meurtres. Réagissant aux déclarations du chef de l'État, Trésor Ndila, défenseur des droits de l'homme, estime qu'il faut prendre le problème à la racine.
La meilleure approche consiste à s'attaquer aux causes du problème. Ces jeunes agressent et rançonnent les gens. Il faut bien une réponse face à ces phénomènes. Mais la réponse ne doit pas se faire au détriment des droits humains.
Pour Trésor Ndila, le problème s'explique entre autres par le chômage endémique de la jeunesse. Et ce, alors que le Congo-Brazzaville traverse depuis plusieurs mois une profonde crise économique. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Il est accusé d'avoir transféré 1 million de dollars sur un compte bancaire à l'étranger. L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a été arrêté ce vendredi. Arvesh Sigoulam était visé par un mandat d'arrêt depuis mi-décembre, quelques semaines après sa démission et l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Correspondance à Port-Louis, signé Abdoulaye Erali.
L'ancien gouverneur de la Banque de Maurice a été arrêté vendredi à l'aéroport par la brigade financière. Arvesh Sigoulam est soupçonné d'avoir orchestré le transfert illégal d'1 million de dollars vers une société aux liens politiques douteux. L'affaire avait éclaté en novembre après sa démission au lendemain des élections législatives. La Banque centrale avait alors porté plainte pour escroquerie évoquant l'existence d'un transfert suspect qui a eu lieu en pleine campagne électorale. La nouvelle direction de la Banque de Maurice est catégorique, il y a clairement eu des malversations. Cependant, l'ex-gouverneur avait déjà quitté le pays quand la plainte a été déposée. De retour, vendredi matin, il a été arrêté à sa descente d'avion. Après une nuit en garde à vue et un long interrogatoire, Arvesh Sigoulam a été libéré hier sous une accusation provisoire de complot en vue d'escroquerie. Les enquêteurs s'intéressent de près désormais aux éventuelles complicités internes et explorent les liens qui pourraient exister avec certains milieux politiques. Abdoulaye Erali, Port-Louis. RFI.
Un mot de football avant de refermer ce journal. Avec d'abord la quatrième journée de la Coupe de la Confédération. Dans le groupe C, la SEC Mimosa reçoit aujourd'hui l'USM Alger à Abidjan pour la phase retour des matchs de poule. Lors de la précédente journée, il y a 3 semaines en Algérie, les USMIT l'avaient emporté 3-0. Conséquence, la SEC est pour l'instant deuxième du groupe avec 4 points au compteur. Pour ce match retour, les jaunes et noirs espèrent tirer profit de la bonne dynamique engagée ces derniers jours en championnat, où ils étaient pourtant en difficulté. On écoute leur coach, Julien Chevalier.
On vient de sortir d'un marathon en championnat où depuis le match aller contre l'USMA, on a joué 4 rencontres pendant qu'ils en ont joué 2. Donc on a tiré un petit peu sur la corde, on a essayé de récupérer il y a 2-3 jours là, pour essayer de retrouver de l'énergie. Par contre, mentalement, on est dans une bonne posture, on a retrouvé un peu de fraîcheur mentale et avec la réussite en championnat, on a réussi à faire quelques bons résultats, se resituer au classement. et s'accrocher. Donc d'avoir relancé une bonne dynamique, ça nous met en meilleure posture qu'après la rencontre aller. Maintenant, on sait que c'est une compétition différente, mais ça fait du bien mentalement surtout. C'était important de redresser la tête. Maintenant, il faut trouver la régularité et l'efficacité pour être encore plus performant.
Julien Chevalier avec Mo Lamine Sissavané, ASEC Mimosa USM Alger. Coup d'envoi à 16h, temps universel. Il est midi 45 en temps universel.
Afrique Midi, Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. On enfile notre combinaison anti-piqûre à la rencontre des abeilles mauritaniennes. Frédéric Gara nous fait découvrir un apiculteur qui entend bien développer la pratique dans son pays. Tirkantar Chanda nous attend ensuite pour Chemin d'écriture. On parle avec lui des 25 ans de la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Et puis 100% création, on lève la tête et on admire les peintures murales de Notre-Dame de Paris pour ce 6e épisode consacré à la restauration de la cathédrale.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche s'en va butiner en Mauritanie. Aujourd'hui, dans ce pays sahélien, un jeune start-upper a décidé de se lancer dans l'apiculture. Depuis, il dispense sa science auprès d'autres Mauritaniens avec un objectif, favoriser l'élevage des abeilles si précieuses pour leur miel, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. Il parle de sa passion à Frédéric Gard.
Surtout, l'abeille est très fascinante. C'est même dans le Saint-Coran, Dieu a donné un sourat complet pour les abeilles. Et il a mentionné aussi que le miel, c'est un remède pour toutes les maladies.
Oumar Diallo, 34 ans, est entré en apiculture. Comme d'autres entrent en religion, spécialiste des énergies renouvelables, il décide en 2018 de consacrer sa vie et son métier à la récolte du miel et donc au développement de ruches. Dès lors, il dévore tous les ouvrages disponibles sur le sujet et suit des formations au Sénégal, aux États-Unis, en Roumanie ou encore au Burkina Faso.
Et là, je me suis mis à faire des recherches. Et là, j'ai compris que les abeilles, c'est une société très organisée où il y a des ouvrières, il y a des architectes, il y a des butineuses, il y a des cirières. C'est vraiment une société très organisée. Et chaque abeille a un rôle à jouer. Et parallèlement aussi, les abeilles participent à la protection de l'environnement par la pollinisation des cultures. Et après les recherches que j'ai faites à Roumanie et aux États-Unis d'Amérique, j'ai compris que si l'abeille meurt, l'être humain n'aura que 4 ans à vivre. Donc, pas d'abeille, pas de vie. Donc, raison pour laquelle nous, on se bat jour et nuit pour développer cette filière apicole en Mauritanie d'une manière durable et responsable surtout.
Devenu expert en apiculture, il installe un peu moins de 100 ruches dans la région de Tabaïtal Mokhtar, au sud du pays, non loin du fleuve Sénégal. Non content de récolter et de commercialiser son miel dans sa start-up Apidev, Oumar Diallo forme également des femmes et des jeunes Mauritaniens à l'art de développer les essaims d'abeilles et de récolter leur nectar. Il a d'ailleurs publié 2 manuels, dont un en langue fulfulde pour les peules.
Nous avons eu l'occasion de former 150 femmes, 4 coopératives féminines dans la production du miel, mais aussi la valorisation des produits de la ruche. Nous avons récolté la cire ensemble, nous avons récolté le miel ensemble et nous avons fait aussi des bougies à base de la cire ensemble et des savons à base de la cire d'abeille. Donc je me suis dit qu'avoir dans manuel en polar, vu qu'eux ils comprennent la langue polar, ce serait aussi un atout pour moi. Je l'ai mis à leur disposition, ce manuel de l'apiculture moderne, durable, en polar et eux-mêmes ils peuvent vraiment lire, comprendre et faire de l'apiculture. Donc c'est une manière aussi de dire à la jeunesse que nous avons des ressources à exploiter, il faut y rester, il faut y croire.
Miel d'acacia, de karité, de jujubier ou encore de moringa, la variété des parfums de ces miels permet à sa marque de se vendre avec succès au-delà même de la Mauritanie. En installant ses ruches en bois ou en ciment dans les vergers ou dans les champs, il favorise en outre de meilleurs rendements pour les récoltes des paysans qui l'accueillent. Car ce n'est un secret pour personne, l'abeille est un vecteur précieux de rendement et de biodiversité, comme nous l'explique Alain Chevalier, président de l'association Happy Flore Dev.
La pollinisation par l'abeille, mellifère, joue un grand rôle dans la production agricole. La FAO a mesuré que, par exemple sur le café, hein, c'est qu'un exemple, mais c'est vrai pour de très nombreuses cultures, l'augmentation de rendement est de 40%. C'est-à-dire qu'on double presque la production grâce à la pollinisation. Car chaque fois, pour les légumes par exemple, La pollinisation permet d'avoir des fruits de plus grosse qualité, plus réguliers et en plus grand nombre.
Apiflore d'Ève, depuis 20 ans, forme un peu partout en Afrique à l'art de l'apiculture. À son simple niveau, la start-up de Oumar Diallo a remporté plusieurs prix d'excellence et cet apiculteur heureux réinvestit le prix de ses récompenses dans l'achat de nouvelles ruches.
L'Afrique en marche.
L'Afrique en marche de Frédéric Gara à retrouver sur RFI.fr. Midi 50, en temps universel, on fait le point sur les principaux titres de l'actualité internationale de ce dimanche 5 janvier, avec d'abord de nouvelles manifestations en Corée du Sud. Des milliers de personnes se sont encore réunies dans les rues de Séoul, aujourd'hui cette fois sous la neige. D'un côté, les partisans du président déchu Yoon Suk-yeol réclament l'annulation de sa destitution. Et de l'autre, ses détracteurs appellent à son arrestation par les enquêteurs. C'est le dernier jour pour le faire avant l'expiration du mandat d'arrêt et mis contre lui. Le ministre syrien des Affaires étrangères entame aujourd'hui une visite officielle au Qatar, la première depuis la chute de Bachar al-Assad il y a bientôt un mois. Assad al-Shaibini est arrivé à Doha avec le ministre syrien de la Défense et le chef des services de renseignement. Objectif, selon l'agence de presse syrienne, discuter des perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays. Et puis la guerre en Ukraine et l'armée russe qui affirme aujourd'hui que Kiev a lancé une contre-attaque dans la région de Koursk. L'opération de destruction des unités des forces ukrainiennes se poursuit, précise l'état-major de Moscou. Un peu plus tôt, l'armée ukrainienne affirmait de son côté avoir abattu 61 drones russes dans la nuit. C'était il y a 25 ans, les éditions Gallimard créaient la collection Continent Noir, entièrement consacrée aux écrivains d'Afrique et de sa diaspora. Une initiative longtemps décriée puisque ses fondateurs ont été accusés de vouloir ghettoiser la littérature africaine. Reste que cette collection, aujourd'hui riche de quelques 130 titres, a permis de faire émerger de grands noms des lettres africaines contemporaines. Tirkant Archanda en parle avec le directeur de la collection.
Bonjour Jean-Noël Schifano. Voulez-vous rappeler les circonstances de la naissance de la collection Continent Noir ?
C'est une aventure littéraire qui a commencé avec le voyage fondateur que j'ai fait avec Antoine Gallimard au Gabon, à Libreville, en janvier 99. Pendant le voyage, Antoine me dit « ce serait bien si tu prenais la tête d'une collection qui concerne l'Afrique, des écrivains africains, et qu'on fonde cette collection dans la maison Gallimard ». Et exactement un an après, on vient présenter au même lieu, au Gabon, à Libreville, 5 premiers auteurs de Continent Noir. Voilà, 25 ans après, on en est avec plus de 130 titres, 54 auteurs et une trentaine de prix littéraires.
Qui sont les 5 premiers auteurs de la collection ?
Les 5 premiers auteurs de Continent Noir sont Gaston Poléfa et son roman « Le cri que tu pousses ne réveillera personne », Justine Minsa et son roman qui s'appelle « Histoire d'Aou », traduit aux États-Unis, qui ne cesse d'être réimprimé, Sylvie Candé, très grande poétesse, très grande styliste, et son premier ouvrage « Lagon Lagune », postfacé par Édouard Glissant, « La révolte du Como », roman d'un Malien, Ali Diallo, et parmi eux, Antoine Gallimard m'a proposé de publier une des plus puissantes racines des littératures africaines, le Nigérian Amos Tutuola, le roman traduit dans la langue de Voltaire en 1953 par Raymond Queneau, le titre de ce roman « L'ivrogne dans la brousse ». C'est un roman Yoruba, chef-d'œuvre absolu. Amos Tutuola, grand écrivain, personne ne peut le nier. Eh bien, quand il est mort, personne au monde n'en a parlé. Il n'y a eu rien dans les médias, ni en France, ni en Angleterre, où il publiait chez Faber & Faber. Dans Continent Noir, je suis très heureux d'avoir aidé à sa résurrection.
Racines et découvertes sont les deux logiques sur lesquelles vous avez bâti Continent Noir. Quels sont les principaux auteurs découverts au cours des 25 années écoulées ?
Je vous donne les auteurs qui ont publié dans Continent Noir leur premier livre. Sylvie Candé, je vous l'ai nommé, Lagon Lagune, c'est une auteur qui sait écrire en vers des épopées historiques. Ousmane Diarra, dont le dernier roman La Route des Clameurs est sorti aussi en folio. Natacha Apana, il y a plus de 20 ans, m'apparaît un beau jour de printemps, timide et radieuse jeune femme, au milieu du Salon du Livre de Paris, le manuscrit des Rochers et de Poutre d'Or à la main, est fait aujourd'hui partie du prestigieux s'il en est, comité de lecture Gallimard. Mahamat Saleh Haroun, le grand cinéaste, est fêté à Cannes, à Venise et partout où ses films nous émeuvent tant. Il choisit Continent Noir pour ses premiers romans. C'est un nouvel écrivain qui a guéri dans l'art de faire voir et d'émouvoir. Eh bien, qu'est-ce que c'est écrire ? C'est faire voir et émouvoir avec des mots. Et lui, il a commencé par les images. Vous voyez, c'est ça la marche de Continent Noir.
Vous recevez à peu près 200 manuscrits par an. Quels sont vos critères de sélection ?
Quelqu'un qui écrit, qui sait faire voir et émouvoir, c'est importantissime. Parce que dans la nostalgie et la vengeance, qui sont les deux temps du moteur de l'écriture, eh bien, l'Afrique, qui a tant souffert, et qui vit, qui ressuscite, qui revit, et des écrivains africains qui cherchent toujours un cheminement dans l'écriture, ils ont vraiment une place royale. C'est pourquoi j'ai toujours voulu faire de Continent Noir, depuis le début, une pointe de diamant de l'écriture universelle. Et je crois que ces 25 ans vont confirmer que la pointe de diamant est bien taillée.
Jean-Noël Skifano avec Tirkantar Chanda. Et notez que vous retrouverez plus longuement le directeur de la collection Continent Noir demain avec Nathalie Amar dans la nouvelle émission Culture de RFI. Ça s'appelle Sur le pont des arts. Rendez-vous demain à 15h10, temps universel. Et avant de retrouver Karine Bellicha pour le journal, comme tous les dimanches, on a rendez-vous avec 100% création, sixième épisode de notre série consacrée aux artisans de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, Maria Afonso nous emmène à la rencontre de Marie Parent Andaloro, restauratrice de peinture murale dans la cathédrale.
Dans mon parcours professionnel, c'est un chantier extraordinaire. On peut dire que ça m'a pris 2 ans et demi pratiquement de temps plein.
Marie Parent Andaloro, restauratrice de peinture murale.
Beaucoup d'investissements, surtout quand on a beaucoup de chapelles à faire et une grosse équipe à gérer. Moi, j'étais très heureuse. Voilà. Pendant 2 ans et demi, ça a été un grand plaisir.
Marie Parent Andaloro est une experte aguerrie dans le domaine de la conservation du patrimoine. Originaire de Toulouse, elle a suivi des études aux Beaux-Arts avant de se spécialiser dans la restauration. Elle commence sa carrière dans la peinture de chevalet avant de s'orienter dans la restauration de peinture murale. Depuis plus de 20 ans, Marie Parent Andaloro travaille principalement dans des églises et d'autres sites historiques. Son parcours atypique mêle art et technique. Pour la restauration des peintures murales de Notre-Dame de Paris, Marie Parent Andaloro et son équipe ont participé au chantier test. Chaque projet de restauration présente des défis et apporte aussi des bonheurs.
Alors la première quand même très belle surprise, c'est l'homogénéité de l'ensemble. C'est-à-dire quels que soient les lots, le rendu est exactement pareil. Donc ça c'était vraiment le gros challenge du départ parce que quand il y a 3 lots et des entreprises différentes, il faut qu'il y ait quand même la même main, le même résultat, le même rendu. Donc ça a été fait grâce au protocole qui a été établi en amont. Donc tout le monde a utilisé le même protocole. Alors l'architecte était là pour surveiller ça, même entre nous. Des fois quand on avait des soucis, on partageait les soucis. Et puis le contraste entre les peintures murales de toutes les chapelles du déambulatoire et la couleur de la pierre, alors là vraiment ça a été une révélation. Pour moi, c'est vraiment l'instant Viollet-le-Duc.
Pendant la restauration de la cathédrale, Marie Parent Andaloro a tissé des liens avec d'autres artisans. Pour la restauratrice, les relations humaines ont été très importantes sur ce chantier.
Le grand plus de ce chantier, honnêtement, ça a été la coactivité et les rencontres humaines. Généralement, quand on fait un chantier de peinture murale, on arrive, l'électricité est posée, l'eau est posée, l'échafaudage est monté. Là, au quotidien, on a travaillé vraiment avec les échafaudeurs, avec les plombiers, avec les électriciens, avec ceux qui s'occupaient de l'eau, même les restaurateurs de vitraux, les restaurateurs de sculptures, ceux qui s'occupaient des parements, parce qu'on les côtoyait vraiment au quotidien. Donc humainement, c'était que des belles rencontres.
Retrouvez l'univers de Marie Parent Andaloro sur RFI.fr. Chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Et c'est avec 100% création, signé Maria Afonso, que s'achève cette demi-heure d'information africaine. Préparée et réalisée aujourd'hui avec Benoît Raymond, Nicolas Brousse, Frédéric Garat et Pierre Vallée. Merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Dans une minute, un nouveau journal sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Psychologie, faut-il poser certaines limites en termes de gentillesse ?
Mardi.
Le rôle de la réglementation alimentaire pour notre santé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Demain, sur RFI, sur le pont des arts, Nathalie Amar.
un recueil de nouvelles étranges et un anniversaire pour notre première émission. Gaëlle Octavia sera notre invitée pour l'étrangeté de Mathilde T. Aux côtés de l'écrivaine Jean-Noël Schifano de Continent Noir, la collection qu'il a révélée et qui souffle cette année ses 25 bougies.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amard. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.